et francophile de Victoria, merci de syntoniser la radio de langue française la plus à l'ouest en Amérique. Bienvenue dans cette édition du débrief pour les mardis 20 et mercredi 21 juin. C'est à une édition spéciale aujourd'hui que vous êtes conviés, chers auditeurs. Nous allons compléter le diptyque des élections françaises de 2017. Nous avions diffusé un premier tour de table d'expatriés français au lendemain de la présidentielle qui a vu l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron le mois dernier. Nous ajoutons maintenant dans cette édition le deuxième et dernier morceau du diptyque. Nouveau tour de table avec des ressortissants français de la région de Victoria, cette fois autour des résultats du second tour des législatives qui s'est tenu dimanche 18 juin. Bonne émission à tous! Écoutez, c'est ILS FM 107,9. Bienvenue dans cette émission spéciale post-législative française. Le studio de CILS est rempli de Français, de ressortissants français, d'expatriés français vivant à Victoria. On va faire un tour de table sur ces législatives 2017. On va commencer en présentant les participants. Donc, à ma gauche, en commençant de ce côté, oui.
Alors du coup moi c'est Gilda, je viens d'arriver à Victoria il y a quelques mois, je suis là pour a priori 2 ans et je suis chercheur en climat à UVic.
Magnifique, et quelqu'un qu'on connaît très bien ici à la radio.
Oui merci, oui c'est Guy, donc effectivement je suis bénévole pour faire des enregistrements d'émissions.
On va dire le nom au complet, Guy Pruvot.
Ah oui, Guy
Bonjour
Pruvot,
Guy. Exact.
Bonjour, merci. Et je suis à Victoria depuis 3 années, je suis retraité et tout se passe pas trop mal.
Magnifique. Et on vous entend fréquemment dans le cadre des enquêtes de l'inspecteur Pruvot.
Oui, et des comptes en pyjama.
En pyjama, oui.
Exact.
À votre gauche se trouve Guillaume Kieffer, l'ancien directeur général de la radio, qui revient occasionnellement nous dire bonjour en studio. Bonjour Guillaume.
Bonsoir.
Bonsoir, bonjour. Cette émission, en passant, est rediffusée en matinée dans la journée de mercredi. Vous pouvez la suivre en fin de journée mardi. Donc Guillaume, quelques mots, juste pour te représenter aux auditeurs.
Donc voilà, ça fait 8-9 ans que j'habite au Canada, 4-5 ans que j'habite ici à Victoria. Et voilà, je suis très content de commenter encore l'actualité française après tant d'années. On a du mal à s'arracher à ses racines quand même.
Merci d'être là. On avait parlé durant la campagne, on s'était reparlé au lendemain de la présidentielle. C'est un plaisir de te retrouver au studio. À ta gauche se trouve Claire Carlin, la présidente sortante de l'Alliance française de Victoria. Bonjour Claire.
Bonsoir Alexis.
Bonsoir. Merci d'être là. Et Claire, tu viens occasionnellement, toi aussi, au micro de CILS, nous parler des activités de l'Alliance. Tout récemment encore, c'était à propos du Bastille Day, Fête nationale des Français, qui se tient très bientôt, dans moins d'un mois.
Eh oui,
alors,
le 13 juillet.
Le 13 juillet, en plein centre-ville, au Parkside, je crois.
C'est exactement ça.
Oui, magnifique.
Venez nombreux, les Français, les Françaises, les francophiles.
L'appel est lancé. Et tout près, à ma droite, se trouve Jeanne Robert. Bonjour Jeanne.
Bonjour. Donc oui, eh bien moi, en fait, je suis arrivée aussi il n'y a pas très longtemps, donc à Victoria. Ça fait à peu près 3 mois que je suis là, j'habite ici. Je suis donc avocate de formation, j'ai fait mes études au Québec. Et je suis aussi nouvellement au conseil d'administration de la radio.
Merveilleux. Merci d'être là. Alors, pour m'aider ce soir, heureusement, j'ai l'aide de mon collègue Adrien Blanc. Bonsoir, Adrien.
Bonsoir, bonjour à tous. Moi, je vais être le monsieur chiffre pour rappeler les résultats et puis je vais t'aider, Alexis, comme je peux pour mener ce débat.
Magnifique. Donc, allons-y en chiffres. Comment est-elle composée, cette assemblée, à l'issue du second tour?
Alors, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a parlé de vagues. La République En Marche, alors en fait, ils ont eu moins de députés que ceux qui étaient projetés. Ils ont eu 308 députés pour la République En Marche seulement. À leur côté, il y a leurs alliés du Modem qui, eux, ont eu 42 sièges. Le principal parti d'opposition, on va dire, le principal groupe, c'est les Républicains avec 112 sièges. Et puis ensuite, on va retrouver à gauche le Parti Socialiste avec 30 sièges, France Insoumise 17, l'UDI qui talonne France Insoumise, qui est même un petit peu devant avec 18 sièges, qui donc avait fait alliance avec les Républicains. Et pour les autres partis, très rapidement, il y a les divers gauches, donc c'est pas un parti, mais divers candidats de gauche qui ont 12 sièges, Parti Communiste 10 sièges, je regarde le Front National, lui, a eu 8 sièges, divers droits 6 sièges, on trouve aussi le Parti Radical de Gauche qui a 3 sièges, les régionalistes, dont 3 régionalistes corses, qui donc en tout ont 5 sièges. Alors après, dans la répartition, il y a Europe Écologie des Verts qui a un siège. Je vois aussi Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan qui a un siège. Et un candidat d'extrême droite, non Front National, qui a un siège. Voilà, je crois que je les ai tous dit. Donc, en fait, pour résumer, ceux qui peuvent constituer des groupes parlementaires, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 15 sièges, c'est La République En Marche, le Modem, les Républicains, l'UDI, et puis à gauche, le Parti Socialiste et la France Insoumise. Un petit mot sur l'abstention, qui a été record en cette 5e République, avec 56,52% d'abstention. Aux précédentes législatives, c'était 44%, je crois, donc c'est un bond énorme. Et puis enfin, je vais parler des résultats plus précis de la circonscription de l'Amérique du Nord, dans laquelle les Français de Victoria ont voté. Donc là, l'abstention a été de 87%, et je crois même que les votes qu'on donne par correspondance n'ont pas été comptabilisés dans cette abstention. Je veux dire, c'est vraiment les comptes dans les bureaux de vote, 87% d'abstention. Et les Français d'Amérique du Nord ont élu à 80% le candidat de La République En Marche, qui s'appelle Monsieur Lescure, face à Frédéric Lefebvre, qui lui a fait 20%, et a noté que les votes blancs et nuls étaient de 6%. Même, je peux préciser, pour Vancouver, Lescure a eu 76%. Et à Victoria, puisqu'il y a un bureau pour la première fois, un bureau de vote, à Victoria, pour ce deuxième tour des législatives, il y a eu 76 votants, ce qui est peu par rapport aux 505 inscrits sur l'île de Vancouver. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Voilà pour les résultats, Alexis.
D'accord, merci Adrien. Donc on peut peut-être lancer la discussion sur ce phénomène de l'abstention, le très faible taux de participation. Débutons avec Gilda. Gilda, que s'est-il passé? Pourquoi le taux de participation des Français est-il si faible aux législatives?
Bon, j'aurais pas la prétention de donner une analyse poussée de la chose, mais en tout cas, quand on regarde un peu de manière... quand on regarde ce qui se passe... sur les derniers scrutins législatifs, les trois derniers du moins, depuis qu'il y a eu l'inversion du calendrier, c'est-à-dire que le scrutin législatif est passé juste après les présidentielles, donc c'était depuis 2002, il y a une baisse constante de la participation au scrutin législatif. Et en fait, ce qui se passe, c'est que systématiquement, il y a eu une assemblée qui était de la couleur du président qui venait d'être élu.
Et systématiquement.
Depuis, en fait, bon, il n'y a eu que trois scrutins, hein, donc systématiquement, c'est un peu... Peut-être un peu fort, quoi. Mais en tout cas, à chaque fois, c'était des assemblées qui étaient quand même de la couleur du président et avec une majorité forte, quoi. Une majorité importante. Et en fait, je pense que ce taux d'abstention, qui a été aussi très fort à la présidentielle, il est quand même révélateur d'une forme de crise démocratique assez forte qu'on a dans le pays, quoi. Et avec des institutions de la Ve République qui sont plus que sclérosées maintenant et qu'il est plus qu'urgent de réformer, quoi.
D'accord, on y reviendra. Guy, si tu peux t'emparer du micro, est-ce que sociologiquement, sur le plan de la sociétale, est-ce que tu vois des raisons à cette attitude blasée des Français face au processus démocratique?
Moi, je dirais que depuis 40 ans, que ça soit la gauche, que ça soit la droite, qui soit au pouvoir, il n'y a strictement rien qui change pour les Français. Le niveau de personnes au chômage a constamment augmenté. Personne n'a trouvé la solution. Et je pense qu'il y a un phénomène de ras-le-bol de la part de la population qui se dit c'est bonnet blanc, blanc bonnet, c'est exactement la même chose, donc pourquoi aller voter? Il n'y a rien qui va changer. C'est une situation, comme dit mon collègue, il serait peut-être effectivement temps de changer les institutions parce que elles datent de 1958. Bon. Elles ont fait leur temps.
Écrites par un général.
Écrites par un général. Bon, mais enfin, à l'époque, c'était très bien.
C'était dans un contexte extrêmement différent de décolonisation, de guerre d'Algérie.
Oui, enfin, mais aussi, c'était aussi pour lutter contre la République des partis, hein, avec la 4e République.
Bon, parfait. Alors, on va poursuivre ce tour de table, mais j'ouvre une petite parenthèse. Il y a eu l'abstention, mais il y a eu le vote blanc aussi, qu'on estime à 10%, je crois.
Ouais. Oui, c'est aussi très important. Et d'ailleurs, des internautes faisaient des commentaires en disant il faudrait peut-être que l'abstention soit considérée comme un parti un jour avec un siège à l'Assemblée, un siège vide pour représenter tous ces gens qui ne veulent pas aller voter. Il y a eu des études sociologiques qui ont été faites dans les récentes élections législatives pour savoir qui ne décidait de ne pas aller voter. Et notamment sur le site Mediapart, il y avait un débat entre sociologues, trois sociologues politiques, qui essaient d'expliquer qui sont ces gens qui ne vont pas voter. Et généralement, c'est une question de génération. C'est-à-dire que les jeunes ne vont pas voter parce qu'ils ne sont pas aussi facilement mobilisables. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de leur parler à la télévision ou de distribuer des tracts sur un marché. Il faut vraiment aller les chercher, leur parler, discuter avec eux, etc. Il faut qu'entre eux, entre amis, ils discutent. Et ça se passe au niveau de la présidentielle. Mais après, pour les législatives, beaucoup de jeunes ne comprennent pas qu'il faut transformer l'essai, comme on dit, dans les législatives, en continuant à soutenir le parti pour lequel on a voté. Donc ce sont les jeunes qui vont pas voter. Et c'est aussi les classes les plus défavorisées. Parce que déjà au niveau de l'éducation, il n'y a pas eu forcément cette culture d'aller chercher dans les programmes, d'aller comparer, etc., ce qui est beaucoup plus nécessaire aux législatives qu'à la présidentielle. Et puis ce sont des gens qui ont cette désillusion dont tes invités parlaient, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas l'intérêt de soutenir tel ou tel. Ils pensent que ça ne changera rien.
D'accord. Et toi, Guillaume Kieffer, que t'inspire ce taux d'abstention record? Il faut bien le dire, c'est un record.
Oui, on le bat régulièrement, ce record. Donc je me demande quand est-ce qu'on va arriver au point où il n'y aura plus qu'une personne qui va aller voter. Je crois qu'il y a aussi une crise politique au sens de l'idéal politique. J'ai l'impression qu'il n'y a plus... avant, on votait à gauche parce qu'il y avait des vraies convictions, Et là, on voit, notamment peut-être avec les primaires, on voit surtout des personnalités s'écharper. Et les primaires ont participé à détruire un peu les partis, à les forcer à s'affronter entre eux avant le grand affrontement de la présidentielle. Et je pense que ça a été très très néfaste et ça a repoussé pas mal de gens à aller voter aussi, parce que ça a été très violent.
Et c'est très long aussi, ça dure longtemps.
Ça a duré des mois. Ouais. Je veux dire, là, on est dans des élections depuis le mois de septembre, quasiment, quoi.
Depuis un an.
Donc les gens en ont un peu marre, je pense. Et cette crise idéale est, à mon avis, très profonde et pousse vers les extrêmes, en pensant que l'idéal est la personne qui va crier le plus fort. C'est assez inquiétant. Mais bon, on verra avec La République en marche ce qui va se passer.
Et l'abstention est un phénomène chronique partout en Occident. On l'a vu ici au scrutin provincial de Colombie-Britannique. Je crois que c'était dans les 46-47%, quelque chose comme ça. Donc, bon, ça peut peut-être consoler, je sais pas. Claire Carlin, présidente sortante de l'Alliance française, que vous inspire ce faible taux de participation des Français?
Alors, quand vous évoquez la longueur de cette saison électorale, un faible taux, un grand taux, un taux record d'abstention, C'est un phénomène, comme tu le disais, Alexis, qui caractérise tout l'Occident en ce moment. Et aussi un vote qui cherche de nouveau, hein, qui cherche à communiquer un message quelconque, n'est-ce pas, d'insatisfaction. Alors, on peut dire, avec Laurent Geoffrin de Libération, j'ai trouvé ça, cette remarque intéressante, en démocratie, qui ne dit mot, ça consent. Il y a une acceptation de mouvement la République en marche, c'est pas, et du macronisme. Il y a aussi beaucoup d'espoir parce que j'ai des amis français qui ne seraient jamais imaginé voter pour Emmanuel Macron, mais qui l'ont fait. Aux deux tours des législatives, après la victoire à la présidentielle. Et il faut dire qu'il existe en France aussi un espoir que quelque chose change, que Macron représente... du nouveau. Le problème, bien sûr, c'est qu'il y a une tension entre la nouveauté potentielle et un libéralisme qui est peut-être ancré dans ce qu'il y a de plus traditionnel et de moins radical.
Vous dites qui ne dit mot consent. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, en jouant sur un autre dicton, que les abstentions ont toujours tort, ou
les absents ont toujours
les absents ont toujours tort. Jeanne Robert, on complète ce tour de table. On ira dans le sens anti-horaire tout à l'heure. Que t'inspire ce faible taux de participation?
Oui, alors je voulais dire, en fait, je pense que déjà traditionnellement les législatives, c'est pas nécessairement les élections les plus populaires en France, parce que je pense que le régime pousse beaucoup à une sorte de personnalisation du pouvoir autour du phénomène, en plus, d'autant plus en ce moment avec Macron qui prend beaucoup de place, je pense, dans son propre parti. Et une fois que les jeux ont été faits, en fait, je pense que après les présidentielles, on a tendance un petit peu à voir que bon bah c'est fait. Et en plus de ça, je pense que les sondages annonçaient quand même une grande victoire de Macron. Donc c'est vrai que les gens ont pas forcément, il y avait plus le danger du Front National. Il y avait quand même des enjeux où je pense dans la tête des gens ça avait c'était retombé un petit peu, et ce qui fait que donc déjà ça, je pense que ça, c'est sûr que ça a sûrement joué. Et une deuxième chose aussi, c'est que Macron, oui, je pense qu'il incarne beaucoup d'espoir, mais en même temps je pense que c'est tout de même mesuré. Et ce que j'entendais, en fait, qui était intéressant, c'était l'adhésion, en fait, l'adhésion réelle à ces idées, finalement, elle n'est pas si importante que ça. J'avais relevé un chiffre, c'était 11%, en fait, des électeurs se disent adhérer, en fait, au parti La République En Marche. Et donc, je pense que... ça explique, ça, je pense que ça veut dire beaucoup aussi.
Oui, 11%, c'est pas beaucoup, c'est okay. Ça, c'est très peu. J'avais lu lors du premier tour que si la France était un village, seulement 11 personnes auraient voté pour Macron. Donc, un village de 100 personnes. Donc, 11 personnes auraient voté pour Emmanuel Macron, le président et le chef du parti En Marche. Adrien, quelques mots?
Peut-être une petite analyse sociologique de ces nouveaux députés En Marche, parce que la grande image, ça a été que c'était un renouvellement avec des députés plus jeunes, plus de femmes, plus jeunes en politique aussi, pas des professionnels de la politique. Alors là encore, il faut rendre hommage à Mediapart. Désolé, je suis un peu fan de ce média, mais ils ont fait un très beau travail de statistiques avec des beaux graphiques sur leur site internet. Donc je suis allé voir un petit peu les informations qu'ils en avaient tirées. Et en effet, cette large élection de députés La République En Marche, donc 308 sièges, fait que ça rajeunit un petit peu l'Assemblée nationale. Donc elle passe de 50 ans à 49 ans, un an de moins, c'est déjà ça. Il y a plus de femmes. Alors, les élus La République En Marche ont quasiment la parité. Mais c'est pareil à France Insoumise aussi, ils ont quasiment la parité. Et donc, ça fait qu'il y a 38% de femmes dans cette Assemblée nationale, ce qui, et là, est un record, n'avait jamais eu lieu, c'est-à-dire 224 femmes pour 353 hommes. Donc, voilà. Donc, ce renouvellement se fait un peu, en apparence, sur l'âge, sur le genre. Par contre, ce qu'a relevé Mediapart, c'est que le renouvellement sociologique n'est pas du tout là. Au contraire, il y a une très forte surreprésentation des cadres du privé, des dirigeants d'entreprise et des professions libérales. Ils représentent les deux tiers de La République En Marche. Et donc, les deux tiers de La République En Marche et 54% de l'Assemblée nationale. Donc la moitié de l'Assemblée nationale est représentée par le privé, alors que dans la population française, ils sont bien, bien moins. Donc voilà un peu pour cette analyse sociologique de ce nouveau parti qui a émergé à l'Assemblée nationale.
Oui, il y a d'ailleurs à ce propos, il y a un journaliste qui a noté qu'il n'y avait pratiquement aucun ouvrier comme député, ouais. Ni même d'agriculteur.
Dans la législature précédente, il y avait un ouvrier qui était élu à l'Assemblée nationale. Okay. Et cette année, sur la nouvelle, je ne sais pas exactement ce que ça va donner.
Je pense qu'il y en a un. Ouais.
Encore cette année. Ouf, alors qu'il représente à peu près 20 ou 30% de la population française,
plus.
Et sur la parité, ce qui est rigolo, c'est que quasiment tous les partis avaient une parité parfaite sur les candidats présentés, mais quand on faisait une analyse plus fine de cette parité, c'est finalement une parité de façade, puisque les circonscriptions dites gagnables, les plus aisées à gagner pour chacun des partis, étaient en général, pour quasi systématiquement, réservées à des hommes. Et il sera également intéressant de regarder ce que ce 38% de parité dans l'Assemblée va donner en termes de commissions, de représentation des femmes dans les commissions. Et je ne pense pas trop me tromper en disant qu'elles n'auront clairement pas la direction des commissions les plus critiques à l'Assemblée, ni les secrétariats, les directions de groupe et tout ça à l'Assemblée, quoi.
Déjà dans le cabinet du Premier ministre Philippe, on constatait que les ministères importants étaient échoyaient aux hommes principalement. Ouais, d'accord. Alors que fait cette Assemblée en France? Quel est le pouvoir de cette Assemblée en France sous la Ve République? Est-ce qu'elle a encore du pouvoir? Peut-elle nourrir, féconder le débat et le processus démocratique dans ce pays? Ou est-ce qu'elle n'est simplement qu'un tampon pour le président? Jeanne, peut-être pour repartir dans le sens inverse.
Mais disons que c'est vrai que je parlais tout à l'heure de personnification du pouvoir et tout ça, et je pense qu'on a tendance un petit peu à délaisser un petit peu le pouvoir législatif au profit du pouvoir exécutif. On l'a vu, bon, c'est pas nouveau ça, le 49-3 qui est souvent utilisé, puis qui a été utilisé par Hollande, enfin par Valls, mais par différents, en fait, par les précédents gouvernements aussi.
On peut peut-être indiquer que le 49-3 c'est une forme de bâillon qui permet de passer expéditivement des lois, je crois.
C'est-à-dire que c'est une manière de pouvoir passer une loi sans passer par le Parlement, c'est une manière d'imposer d'une certaine manière. Le pouvoir, quand c'est on n'est pas vraiment sûr à 100% que ça va passer, ou quand les débats sont un peu trop longs au goût du pouvoir exécutif, à ce moment-là, on va utiliser. C'était passé, c'est ce qui se prévoit de se faire bientôt avec les réformes.
Il veut passer par ordonnance, en fait. C'est un peu différent du 49-3.
Oui.
C'est un peu plus violent et un peu plus antidémocratique que le 49-3. Mais le principe est le même. En gros, c'est évacuer l'Assemblée et se débarrasser du débat contradictoire dans l'Assemblée nationale, quoi. Le 49-3, en fait, permet de... contre, en fait, de clore le débat parlementaire et contre un vote de confiance oui. face au gouvernement, du gouvernement, il y a le passage ouais. de la loi, quoi. Ouais.
Mais il faut noter quand même que les ordonnances qui vont se mettre en place, elles ont un but quand même, c'est de faire vite, puisque apparemment, si on suivait la procédure normale au sein du Parlement, il faudrait à peu près 2 ans pour changer la loi, ce qui est effectivement un délai trop important, ne serait-ce que pour les problèmes des contrats de travail, etc.
D'accord.
Ça peut avoir son utilité.
Ouais, après la démocratie, c'est long, quoi.
C'est oui, sûr. C'est vrai.
Et vouloir. Enfin, clairement, ce que Emmanuel Macron propose sur le droit du travail et sur les réformes qu'il propose. Enfin, clairement, ça revient à chambouler la vie d'à peu près 20 à 30 millions de personnes en France, quoi. Mmh. Il y a 20 millions de salariés, je crois, à peu près. Et ça revient concrètement à vraiment mais chambouler leur vie, quoi. À changer profondément le code du travail en France, qui a mis 150 ans à être construit, quand même.
Oui.
Avec de longs débats parlementaires, des mouvements sociaux. Enfin, c'est quelque chose qui est le fruit d'une histoire, quoi. Et on veut revenir là-dessus en 2 mois, dans l'été, sans débat parlementaire. Il y a plein de manières d'accélérer le débat parlementaire, autre que les ordonnances, quoi. Et c'est malheureux de vouloir se défaire de ça, sachant qu'en plus, parce que politiquement, je comprends pas de la part du gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Emmanuel Macron, c'est que ils ont une majorité plus que confortable à l'Assemblée, quoi. Donc vouloir faire usage d'une procédure extrêmement violente contre la démocratie, qui est le fruit de la cinquième, quoi. C'est bon.
D'accord, Claire. Ça me...
Non, j'allais juste dire qu'avec cette majorité écrasante, comme Gildas l'a remarqué, les ordonnances ne sont même pas nécessaires. Alors, pourquoi passer par là ? Le débat en Assemblée nationale serait possible sans les ordonnances. Alors, c'est peut-être pour cette raison, c'est un peu dommage. Beaucoup d'entre les commentateurs disaient la semaine dernière, surtout, n'est-ce pas, en s'attendant à ce que cette majorité soit encore plus importante, que ça poserait problème pour Emmanuel Macron d'avoir cette majorité, parce que la légitimité de tout ce qui se faisait à l'Assemblée serait mise en question. Mais il ne faut pas oublier que en France, on a aussi une longue tradition de l'expression dans la rue, n'est-ce pas, et que on pense, par exemple, à un autre gouvernement centriste, celui d'Alain Juppé, qui a
s'hurté
contre une grève presque généralisée. Et on pourrait imaginer peut-être, ce sera intéressant de voir si c'est le même cas de figure cette fois-là.
D'accord. Alors là, il y a l'état d'urgence, ce qui tend à atténuer peut-être les ardeurs, mais ça sera surveillé. Guillaume, est-ce que tu veux dire quelques mots sur le présidentialisme de la Ve République?
En tout cas, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir que d'une manière, ce que tu disais tout à l'heure, Gilda, c'était que ce sera intéressant de changer la Ve République, qui est quand même aussi le fruit d'une histoire et de plein de choses, et que par contre le droit du travail il faudrait pas le changer.
Je dis pas ça.
Parce que moi il y a juste un truc qui me surprend beaucoup en France, mais après maintenant c'est venu de loin. Tu parlais tout à l'heure de 1995, c'était ma première manifestation en 1995, donc j'ai eu ce moment-là dans ma vie très revendicatif et tout ça, et je me rends compte maintenant, c'est peut-être l'éloignement, que en France on veut tout changer sans jamais rien changer. C'est très compliqué à chaque fois d'essayer de changer des choses. On se retrouve tout de suite avec beaucoup de gens dans la rue, des minorités. Je faisais partie de ces gens-là, et je suis sûr que ces gens-là ont plein de bonnes raisons de faire ce qu'ils font. Mais je trouve qu'il y a ce blocage perpétuel avec la France qui fait qu'on n'avance que par à-coups, par mai 68, par Révolution française, par la Commune de Paris. On n'avance que par des choses violentes. Et je me demande vraiment, en ayant vu les manifestations qui, m'ont beaucoup surprise contre la loi travail, des manifestations extrêmement violentes, où on voit que les gars viennent préparer, brûlent leurs affaires pour pas qu'on reconnaisse leur ADN, je veux dire, c'est à la limite de la guérilla urbaine, je me demande si on n'est pas à l'aube de ça, avec ce que va faire Macron, probablement passer ces choses-là par ordonnance, sans consulter, à la va-vite, ça risque d'être très très dangereux.
D'accord.
Je ne veux pas faire peur à tout le monde, il y a aussi beaucoup de positifs dans ce qui est en train de se passer, il y a un changement à l'Assemblée nationale, et il y a besoin de ce changement-là. Est-ce qu'il se fera dans la douleur ou pas?
Ben pour le moment, c'est calme. En tout cas, la rue française s'anime un peu. Par exemple, du côté de Rennes, où il y a dans les foyers traditionnels de la contestation, il y a un petit peu d'animation, mais ça va peut-être aller en s'accroissant au cours de l'été avec les mesures à toute blinde, les réformes que veut faire Macron. Alors on peut en venir à la substance, puisque quand on parle de présidentialisme, c'est encore la forme, c'est encore les manettes, mais le jus comme tel, le contenu. Alors c'est qui Macron? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il fera dans sa première année? On peut peut-être commencer en citant ces gens qui disent Macron n'est ni de droite ni de gauche. Alors Ça va, je crois, générer du débat.
Macron a dit qu'il était de gauche et de droite.
Oui, il a aussi dit ça.
Il a dit ça.
D'accord. Alors, personnellement, ce que je perçois, c'est un homme qui est très à droite. État d'urgence maintenu, état d'urgence qui va maintenant passer dans le droit commun. Très dur sur la question des migrants. Les réformes par ordonnance et d'autres choses comme par exemple l'ubérisation de la société, le travail, tout ça. Est-ce que, je vais repasser la parole à mon collègue Adrien, est-ce que Macron est un homme de droite?
Oula. Grande question, là j'aurais un peu de mal à me prononcer. Il faut savoir que Macron a été élu sur le rejet du précédent gouvernement qu'il a réussi à quitter à temps, puisqu'il en a fait partie de ce gouvernement, et puis il a réussi à en partir au moment où ça sentait vraiment le roussi pour François Hollande, et c'est en partie ça qu'il a apporté. Et d'ailleurs, on voit dans ces élections législatives que beaucoup d'anciens ministres du gouvernement Hollande ont été sanctionnés dans les urnes. Je pense à Emmanuel Cos, Cécile Duflot, Myriam El-Khomri, Mathias Fekl, qui était ministre de l'Intérieur, Aurélie Filippetti, je pourrais continuer. Bon, Benoît Hamon, qui était le candidat du Parti Socialiste, a été renvoyé chez lui. Donc il a sûrement profité de cette vague qui a donné l'impression d'un renouveau. Et en même temps, on voit que dans La République En Marche, il y a d'anciens LR, comme il y a d'anciens Parti Socialiste, du Parti Socialiste. Et on voit surtout que dans la sociologie de ces députés, et c'est notamment vrai à Paris, dans les 18 députés parisiens, ce sont tous, c'est un peu l'image du jeune cadre dynamique, très orienté business, il faut foncer, voilà, etc. Donc, est-ce que c'est de gauche ou de droite, ce comportement-là? Ça, je peux pas me prononcer, mais en tout cas, c'est cette idée qu'il faut aller vite, il faut favoriser les affaires, il faut favoriser une sorte de libération. Emmanuel Macron a fait partie de la commission Attali qui proposait de casser tous ces verrous dans l'économie française. Donc c'est une idéologie, mais de là à savoir si ça reste de gauche ou de droite, c'est peut-être la question qu'il faut poser à tes invités. Ouais.
D'accord. Gilda?
Je pense que sur Emmanuel Macron, sur sa politique économique, même s'il avait entretenu un peu le flou sur son programme pendant un moment avant l'élection présidentielle, il n'y avait pas trop de doute sur ce qu'il comptait faire et qu'il a clairement une politique économique libérale, quoi. Après, le lendemain de son élection, je suis quand même relativement opposé, quoi, voire très opposé. Mais à la suite de son élection, j'accordais quand même le bénéfice du doute sur des problèmes liés à l'état d'urgence, liés au traitement des migrants, comme tu disais tout à l'heure, j'accordais le bénéfice du doute et j'attendais de voir un peu ce qui allait se passer, quoi. Et il se trouve que les premiers signaux qu'on a reçus pour l'instant sont plus qu'inquiétants, quoi. À peine ils sont arrivés, à peine il est arrivé au pouvoir et que Édouard Philippe a nommé un gouvernement, ils ont sorti en quelques jours, une prolongation de l'état d'urgence, Donc, pour revenir en fait un petit peu à prolonger l'état d'urgence à un peu début novembre, donc ça viendrait à 2 ans d'état d'urgence. État d'urgence qui a démontré son inefficacité, son inutilité. État d'urgence qui a clairement servi à, de l'aveu même de François Hollande, quoi, à mettre, à assigner à résidence des militants écologistes, des syndicalistes, à interdire de séjour sur le territoire français, sur certaines parties du territoire français des manifestants, enfin, qui est clairement pas fait pour lutter contre le terrorisme, quoi, qui est fait pour faire la guerre sociale, quoi. Donc, ce qu'a proposé Macron et Édouard Philippe, quoi, c'est de prolonger cet état d'urgence pour en sortir, sachant que la sortie s'accompagnerait, en fait, du passage dans le droit commun de mesures de l'état d'urgence, quoi.
Et cet état d'urgence est commode, justement, pour faire taire la rue. On a vu que des militants écologistes avaient été visés par des mesures de l'état d'urgence, des gens qui n'avaient rien à voir avec le terrorisme.
Il y a des mesures de l'état d'urgence qui ont été... Enfin, une mesure qui a été censurée par le Conseil constitutionnel ce mois-ci. Il y a Amnesty International qui a fait un rapport récemment qui a présenté de nombreuses dérives de l'état d'urgence et qui a dit qu'il y avait... Enfin, qu'il y avait des choses de l'état d'urgence qui étaient quand même contraires au droit international. Et on propose de passer tout ça dans le droit commun, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est pas cool. C'est pas cool, clairement, quoi. Et après, sur le... Donc, il y a cet état d'urgence, et puis il y a le traitement des migrants, quoi.
Oui.
On a vu la semaine dernière des policiers interdire à des associations et des ONG de distribuer à manger et à boire à des migrants, quoi. À des enfants, quoi.
Oui.
On est en période de
Il y a des enfants qui font l'objet de trafic humain dans la zone de non-droit qui est
Calais.
Zone de Calais, voilà.
Mais c'est bon, Hollande était rentré dans cette logique-là.
Voilà.
On s'est dit bon, c'est une fin de règne, faut qu'il s'en aille et peut-être qu'on aura un renouvellement un petit peu de des pratiques à ce niveau-là. Mais en fait, on replonge dans les mêmes travers et en plus, en plein dedans, quoi.
Alors, Guillaume, j'avais dit une fois quelque chose de farfelu lorsqu'on était en pleine conversation cet hiver à l'approche du rendez-vous présidentiel. J'avais dit une fois que j'imaginais Macron à la droite de Sarkozy. Et évidemment, c'était pour te faire réagir. Mais est-ce que tu crois qu'il y a un peu de vérité là-dedans?
Pas sur tous les sujets. Voilà. C'est comme Gida disait, c'est très très inquiétant pour l'état d'urgence. Il y a quand même des reporters américains qui ont alerté en disant faites pas comme nous en 2001. Mm-hmm. Après 2001, ne faites pas comme nous, ne faites pas votre Patriot Act. On regrette. Donc.
Et il l'a fait. En fait, c'est Hollande qui a fait la loi surveillance qui est assez restrictive.
Il l'a fait et qui passait tout doucement parce que tout le monde a peur en France et que c'est terrible. Oui. Et que voilà.
Ouais.
Tout le monde est tendu. Après, si Macron est de gauche ou de droite, je te dis, ça dépend des sujets. Tout ce que je vois, c'est par qui il est entouré, comme Alain Minc ou Attali, dont on parle beaucoup, Pierre Berger aussi. C'est des gens qui ont entouré, surtout Alain Minc et Attali, qui ont entouré des gens de gauche, qui ont entouré des gens de droite. Ça a toujours été des éminences grises depuis 30-40 ans en France. Alors, je me demande ce que font encore ces gens-là. Là où ils sont, après avoir échoué pendant 30 ou 40 ans. Et donc, Macron met beaucoup en avant le renouveau, mais c'est aussi un enfant de ce système-là. C'est un gars qui aurait été complètement dans la continuité à droite ou à gauche, dans l'un des deux partis les plus populaires, l'UMP, les Républicains, ou le Parti Socialiste. Il aurait été très bien dans chacun des deux. Ça aurait été un super poulain, mais il a trouvé... En fait, que le meilleur moyen d'être président, c'était d'inventer quelque chose de nouveau. C'est très bien, il a énormément de talent pour ça. Mais vraiment, vraiment, je pense que profondément, dans ses idées, dans ses manières de faire, son côté président, la manière dont il est président est très, très traditionnelle. Il veut remettre ce côté un peu sacralistique là, de la présidence, c'est « il n'y a rien de nouveau ».
D'accord.
Moi, pour le moment, je vois rien de nouveau.
Sous le marketing, Claire, est-ce qu'il y a un homme de droite?
Je pense que touche ce désir d'un certain public de rassurance. L'état d'urgence, c'est un peu ça. C'est cette fausse sécurité, tout est sous contrôle, je sais pas. Il va nous protéger, il va nous permettre d'avancer, il va faire baisser le chômage. Ce sont des illusions. Mais il y a aussi fondamentalement dans cette ni bonnet rouge ni talon rouge, il y a une incohérence qui, à mon avis, accompagne ce positionnement au milieu. Et on le voit ressortir avec la fameuse moralisation de la politique qu'il cherche à instaurer, François Bayrou qui est en train de qui est sur le point d'être mis en examen, je sais plus.
C'est pas de chance.
D'ailleurs, ils ont bien revu à la baisse leurs ambitions sur la moralisation de la vie politique. Il a présenté sa loi la semaine dernière ou il y a 15 jours et en fait, c'est une vaste blague quoi, c'est une coquille vide
qui ne s'appelle plus d'ailleurs moralisation.
Ouais, non, politique.
Ils l'ont changé. Et ce qui est intéressant dans la nouvelle assemblée d'ailleurs, c'était de voir aussi le résultat du MoDem. Parce que là, on se rend compte que Macron, avec les résultats, c'est à peu près 60, je crois, pour le MoDem, il n'a pas besoin du MoDem.
Non.
Ce qui fait qu'en fait, là, il n'a plus besoin de Bayrou.
Oui.
Donc Bayrou pourra être le prochain fusible.
Exact.
Ferrand a démissionné aujourd'hui. Hein.
Ouais, Ferrand. Oui. Il va devenir président du groupe parlementaire. Ouais. Je crois que c'est ça.
Oui, c'est ça.
C'est le deal à mon avis.
C'est ce que j'ai cru voir.
Alors en effet, Macron a la majorité absolue à l'Assemblée. Il n'a plus besoin de Bayrou. Pour terminer, Guy, est-ce que droite et gauche, c'est possible dans un seul et même homme?
Bon, pour moi, Macron est un homme de droite.
Alors, les médias qui nous le présentent comme centriste à longueur de page?
Non, c'est de la poudre aux yeux. Pour moi, il est de droite. Il était, n'oubliez pas quand même qu'il était banquier d'affaires chez Rothschild pendant pas mal d'années. Ceci dit, il est de droite, mais je pense quand même qu'il a la volonté vraiment puissante de vouloir changer le problème du travail en France, parce qu'il y a quand même beaucoup trop de chômeurs, surtout chez les jeunes, et peut-être que ça, c'est un espoir. Bon, maintenant, dans quelles conditions c'est un espoir? Si est-ce que les gens doivent travailler avec avec moins de sécurité, comme dans... Ou est-ce qu'on doit conserver la sécurité, toutes les normes actuelles? Est-ce qu'on doit donner plus de flexibilité au travail? C'est un vaste problème. Mais apparemment, on ne peut plus réagir comme c'était le cas dans les années, dans les 30 glorieuses, comme on a dit, parce que maintenant, il y a la mondialisation, et puis il faut marcher. C'est marche ou crève, quoi.
En marche.
Oui, exactement, c'est vrai. Non, c'est un jeu de mots, mais... si on ne rentre pas dans ce circuit, on risque fort d'en subir des conséquences importantes.
Alors on parlait
c'est mon opinion.
Très bien. On parlait de Bayrou à l'instant et de la composition de l'Assemblée. Dans cette Assemblée, Jeanne, est-ce que tu entrevois une unité de pensée ou une sorte d'éclectisme dans les troupes de Macron? Il y a toutes sortes de gens dans ce parti des marcheurs. Est-ce que ça va tenir?
C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout, surtout en fait du Parti socialiste et des Républicains. Mais en même temps, je pense que les pensées n'étaient pas si différentes. C'est-à-dire que c'est des courants à l'intérieur même des partis qui allaient plutôt vers le centre. Donc je pense qu'il y a quand même une unité de pensée. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent de la société civile, dont on ne connaît pas vraiment. Donc je pense que c'est difficile de répondre à cette question. Et c'est vrai que je pense que justement, ces personnes qui viennent de la société civile, qui finalement sont tout nouveaux, ont été élus grâce à lui grâce à Macron.
Absolument.
Et lui doivent beaucoup de choses. Donc, donc ça veut dire que c'est des personnes, je pense, qui vont être quand même fidèles. En tout cas, on verra, mais je pense qu'ils vont rester quand même fidèles. C'est ça aussi, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que Macron, je pense qu'il prend beaucoup de place quand même à l'intérieur de son parti. Et c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une centralisation du pouvoir qui est aussi quand même assez importante. Donc, je crois que... on va voir comment ça va se dérouler. Mais c'est ce que je constate pour l'instant.
Ouais. Est-ce qu'une fronde est possible chez les marcheurs de l'Assemblée, semblable à celle qu'on a vue au PS, Adrien?
C'est peut-être un peu tôt pour le dire. En fait, c'est vrai que le grand éclectisme fait qu'on ne sait pas du tout comment vont réagir chaque député. Est-ce que ceux qui étaient au PS ou à Les Républicains vont se retrouver une solidarité avec leurs anciens collègues au gré des lois proposées? C'est tout à fait possible, puisqu'une fois qu'ils ont été élus, ils sont libres de voter comme ils veulent, sauf s'il y a une discipline de parti qui est mise en place pour accéder à des commissions, etc. Mais autrement, ils votent comme ils veulent. Et puis, il faut penser aussi à tous ces députés qui n'ont pas encore d'expérience politique. C'est vrai que d'avoir moins de connaissances du fonctionnement de la politique, ça veut dire qu'ils sont plus manipulables, mais ça peut aussi offrir des bonnes surprises. Pendant toute la campagne, pendant les 1 an qui ont précédé, de nombreux philosophes, sociologues ont rappelé que la démocratie, c'est aussi l'inexpérience. C'est-à-dire quand tout le monde est professionnel de la politique, il n'y a plus vraiment de démocratie. C'est une sorte d'oligarchie qui décide par elle-même.
Exact.
Alors que quand il y a de l'inexpérience, quand c'est le citoyen moyen qui s'implique dans les affaires de la cité, eh ben, on peut arriver à de bonnes surprises, à de belles décisions qui sont proches du terrain. Mais bon, en même temps, ces inexpérimentés de l'Assemblée sont encore peu nombreux, divisés, donc on ne sait pas quelle voie ils vont prendre.
D'accord.
On a vu de nouveaux visages, notamment François Ruffin. Sans doute l'as-tu remarqué. Gilda, as-tu des impressions sur l'élection de François Ruffin, l'auteur du documentaire Merci Patron, qui portait sur Bernard Arnault?
Ouais, c'est chouette. C'est cool.
C'est un candidat que tu suivais?
Ouais, c'est un candidat que je suivais. J'ai regardé Merci Patron. J'étais dans le mouvement social en printemps dernier en France. Donc forcément, c'est une figure qu'on suit. Puis je lis Fakir. Enfin, je ne vais pas dire que je lis Fakir, mais je suis un peu Fakir depuis quelques temps, quoi.
Fakir qui est le journal
dont il est rédacteur en chef. C'est chouette parce que ça fait un candidat. Il a un candidat qui est clairement anticapitaliste, quoi. Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est à gauche à l'Assemblée. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'il propose de se faire d'être payé au SMIC et d'être révocable. Et ça, c'est cool, quoi, parce que niveau renouvellement de la classe politique et des pratiques politiques, la révocabilité de l'élu, ça ferait pas de mal, quoi. Donc lui, il a décidé. Alors c'est pas quelque chose qui est imposé aux élus, quoi, mais il a dit s'il y a un quart des alors reste dans la pratique, comment il va faire ça, quoi. Ça, c'est la grande question, mais c'est ce qui a priori, je pense qu'il va, c'est quelque chose auquel il va essayer de se tenir. Mais si un quart des élus des inscrits de sa circonscription lui demandent de partir, il partira, quoi. Et ça, c'est bien. Et en fait, ce qui serait encore mieux, c'est que les députés de la France Insoumise qui proposaient ça dans leur programme, la révocabilité des élus, se l'applique à eux-mêmes aussi, quoi.
Oui.
Ça serait pas mal, quoi.
Tout à fait. Ouais.
Entendu. Alors, la France Insoumise, justement, il y avait un article super intéressant récemment dans Mediapart qui soulignait que la France Insoumise a réussi ce qu'ils appellent en Espagne le pasado, c'est-à-dire dépasser le Parti Socialiste historique. La France Insoumise, désormais, qui dépasse le score du Parti Socialiste français et en tout cas à la présidentielle. C'est vrai qu'aux législatives, là, je vois des airs perplexes. Effectivement, c'est pas tout à fait le cas.
Ouais, aux législatives, la France Insoumise a eu 17 sièges, ce qui lui permet de constituer un groupe, mais le Parti Socialiste a quand même 30 sièges.
Ah, autant pour moi, merci. Ouais. Bon, en tout cas...
Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le Parti Socialiste n'est pas réellement un parti de gauche.
Depuis quand? Parce qu'il s'appelle socialiste.
Depuis Mitterrand.
Ouais, 82, Mitterrand. 83, quoi.
Tout à l'heure, je disais qu'effectivement, il n'y a pas d'évolution et que le problème reste le même depuis une quarantaine d'années, au niveau social en France, au niveau du travail, au niveau des chômeurs. Le Parti Socialiste n'est pas un parti de gauche. Les partis de gauche réels, c'est le PCF, hein, et les Insoumis. Et puis l'extrême gauche, Lutte Ouvrière et compte. Bon. Mais le Parti Socialiste est un parti bourgeois. Comme la République En Marche, comme les Républicains, comme le Modem, comme... C'est tout.
Et puis à partir du jour où ils ont embrassé le libéralisme et ils ont parti sur le virage austéritaire...
Absolument. Absolument.
C'était clair.
Absolument. Le message est extrêmement clair, ouais.
Donc
clair.
Là, on est bien d'accord, la nouvelle assemblée, elle est de droite. C'est clair.
Alors, le secrétaire du Parti Socialiste, Cambadélis, a démissionné. Est-ce que... Soupir de soulagement, non. Est-ce que le Parti Socialiste...
On s'en fout, franchement. Hein.
Oui.
Le monde ne va pas changer.
Tu fermes Solferino.
Non, d'abord, il faudrait qu'ils changent aussi le nom de leur parti, parce que le Parti Socialiste, ça ne veut plus rien dire du tout.
C'est ce que voulait Manuel Valls, entre autres.
Il avait certainement raison.
Mais il recompte les voix, Manu, déjà.
Oui.
Déjà, oui. Je pense qu'il va se passer, d'ailleurs.
Est-ce que le Parti Socialiste, et on peut se demander la même question à propos des Républicains, est-ce que ces deux partis sont morts de leur belle mort? Et c'est là-dessus, sans doute, qu'on va terminer, puisque le temps file à très haute vitesse. Guy?
Pour moi, le Parti Socialiste, il a besoin effectivement de se réformer, c'est-à-dire, s'il veut rester socialiste, il faut qu'il change complètement sa politique. S'il ne veut pas changer, il faut qu'il change de nom, comme Parti Social-Démocrate ou je ne sais quoi. Mais pour moi, il a plus sa raison d'être.
C'est comme le Labour sous Tony Blair.
Exactement la même chose. C'est le New Labour sous Tony Blair.
D'accord. Guillaume, est-ce que c'est le moment de la chronique nécro pour le PS?
Nécro, on va chanter la marche funèbre en accompagnant Cambadélis chercher ses indemnités chômage. Non, je sais pas. Vraiment, c'est tellement inédit, je trouve, ce qui se passe. C'est vraiment dur à dire. Après, les Républicains, je trouve que c'est différent. Ils n'ont pas eu un échec aussi grand que ce qu'ils attendaient. Il y a quand même des personnalités assez fortes encore chez les Républicains. Donc, je suis pas sûr. Le problème du Parti Socialiste, c'est que au fur et à mesure des années, en effet, il s'est déporté vers la droite, et c'est devenu ce qu'ils appelaient la gauche de gouvernement. Donc, c'est la gauche qui trahit la gauche. Oui. Et du coup, ils se sont retrouvés dans ce. En fait, c'était les premiers à faire le ni gauche ni droite. Donc, ouais. Effet, pour le Parti Socialiste,
donc, pardon, de droite.
Oui. Donc, du coup, je pense qu'en effet, ça se trouve, ça va être complètement contraire dans 5 ans. Mais non, là, je dirais qu'en effet, c'est la fin.
D'accord. Et très rapidement, à qui donneras-tu ta confiance dans cette assemblée maintenant que Hamon a disparu du radar? Est-ce que
tu viens de dire pour qui je vote?
Je suis désolé, je peux couper si tu veux. C'est pas en direct.
Moi, je suis très inquiet. La France insoumise, qui m'inquiète beaucoup, c'est la personnalisation du pouvoir par Mélenchon, et je trouve ça très très néfaste. Et pourtant, c'est un beau mouvement. Ils ont des belles idées. C'est dommage. Honnêtement, Ruffin, moi, je l'ai vu aujourd'hui parler, j'en avais déjà un petit peu entendu parler, pas autant que toi, mais j'en avais déjà entendu parler. Je me suis dit, aujourd'hui, enfin un mec à peu près normal au gouvernement, à l'Assemblée. Ça me plaît.
Très bien.
Ça me plaît de voir ça, parce que lui dira ce qu'il a à dire quand il a à le dire.
D'accord, on va passer la parole à Claire Carlin, présidente sortante de l'Alliance française. Claire, quelques mots sur la vie. Est-ce qu'il y a une vie après la mort pour le PS et les Républicains?
Alors, les publics occidentaux ont soif du nouveau. Emmanuel Macron crée un parti politique et il a du succès, n'est-ce pas? Et il entend gouverner du centre. Le Parti Socialiste élu, c'est ce parti centriste qu'on a appris à connaître. Malheureusement, je pense que la vraie gauche, aura du mal à se faire élire. Le Parti socialiste, comme tout le monde le disait, ce n'est pas la vraie gauche. Alors, s'il va renaître de ses cendres, ce qui est bien probable à mon avis, n'est-ce pas? Il faut faire comme les Républicains, n'est-ce pas, qui n'ont pas si mal fait. Ça fait combien de temps? 2 ans que ce parti s'appelle les Républicains. On a vu les différentes métamorphoses superficielles, n'est-ce pas, de par le nom des partis de droite aussi. Et puis il y a toujours une certaine attirance vers le nouveau parce que on en a marre de l'actuel. On veut passer à autre chose.
Le peu de gens qui votent sont attirés par la nouveauté. On peut, je sais pas, c'est une boutade, mais il y a toujours cet angle mort de l'abstinence, de l'abstention, pardon. Attention.
L'abstinence.
Cet angle mort de l'abstention, je reprends. Et je vais terminer en passant la parole à Jeanne Robert. Jeanne, quelques mots sur justement ces partis. Sont-ils désormais disparus de la carte électorale?
Bah, déjà, moi, je voulais... En fait, je pense que c'est quand même sain qu'il y ait des évolutions dans les partis, parce que là, j'ai l'impression qu'on voit les choses comme le Parti socialiste, il est à droite. Enfin bon, je pense que la société, elle change, puis c'est normal qu'il y ait des changements. Et oui, dans un courant politique, on peut aussi avoir une évolution. Alors après, peut-être que, du coup, c'est vrai que le nom devient peut-être un peu obsolète, mais et puis qu'il y a un parti qui peut-être des partis qui disparaissent et qui renaissent, je pense aussi que c'est bon pour la démocratie. Donc après, que ce soit, est-ce que le Parti socialiste va complètement disparaître, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même déjà plusieurs échecs au Parti socialiste, en commençant, j'ai le souvenir peut-être assez récent du deuxième tour, c'était en 2007, Jean-Marie Le Pen, pardon.
2002.
J'ai sauté avec Jospin. Enfin, je veux dire, donc ils ont quand même vécu des échecs importants et ils se sont quand même remis de ces échecs. Alors. Est-ce que si le mouvement En Marche, justement, un échec, est-ce que le Parti socialiste va justement apparaître comme une nouvelle option s'il arrive peut-être à se redynamiser, puis rien n'est impossible, je sais pas.
D'abord, c'est pas un parti, hein, c'est un mouvement.
Le mouvement En Marche
La République En Marche, ouais. C'est le parti issu du mouvement En Marche.
Oui, c'est ça.
Du ouais. Marketing.
Ouais, voilà.
Si Macron ne parvient pas à conquérir le changement, à conquérir les voix des gens, l'approbation du peuple, là, on va se retrouver avec à nouveau un parti de droite, un parti de gauche. Toujours cette scission entre les deux, entre les extrêmes.
Ouais.
Macron, pour l'instant, il donne l'impression, effectivement, même si pour moi il est de droite, il donne l'impression quand même de mélanger le tout. Et on va voir quelle soupe ça va donner. Mais c'est bon, quoi. C'est bon de voir ce que ça va donner. C'est une expérience.
Moi, je pense que c'est pas forcément bon que le Parti socialiste disparaisse complètement, parce que de toute façon, enfin après, si on regarde les oppositions, personnellement, j'ai pas forcément envie de me retrouver. Moi, je partage pas l'opinion des extrêmes, donc je pense qu'il y ait quand même des partis qui soient modérés. Au pouvoir, en tout cas, qui soit représenté à l'Assemblée, je pense que c'est sain et je pense que c'est important qu'ils aient une voix. Donc, Après, on partage pas forcément l'opinion du Parti Socialiste, mais je pense qu'il représente quand même une partie, même traditionnellement, de la société française. En tout cas, je pense qu'il y a quand même un historique assez long, puis...
Pour moi, le Parti Socialiste a perdu son âme. Il n'a plus le droit de s'appeler socialiste. C'est simple. C'est un parti bourgeois. Il est devenu bourgeois. Quand vous voyez, par exemple, l'ancien... C'est une anecdote, hein, mais quand vous voyez l'ancien ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, qui s'appelait Dumas, et qui... Socialiste, hein, et qui se payait des chaussures à je sais pas combien de milliers de... francs, à l'époque c'était des francs.
Oui.
C'est lamentable.
D'accord.
C'est tout. C'est une anecdote.
Oui. Il y a aussi le conseiller de Hollande, parlant de chaussures, qui se faisait cirer les chaussures à l'Élysée, je crois. Enfin, c'est
exact.
Pour rester dans, dans les anecdotes de chaussures. Je pense que le prochain rendez-vous électoral pour les Français, c'est les municipales. Est-ce que je me trompe, dans 3 ans même, en 2020?
Ouais, j'ai pas la date exacte, mais c'est au moins 2 ans et demi. Ouais. Donc d'ici là, on n'aura pas de vote sanction pour savoir ce que pensent les Français du gouvernement. Et on parlait beaucoup du Parti Socialiste. Il faut se souvenir que le Parti Socialiste, c'est aussi un parti de notables locaux qui ont beaucoup de maires, de conseillers départementaux, de présidents de conseils départementaux. Mmh. Et pendant longtemps, pour eux, ça a été un vivier d'élus à envoyer à l'Assemblée nationale, mais aussi un relais local pour mobiliser les gens pour voter. Et donc là, pendant 2 ans et demi, on ne sait pas si ce vivier-là va perdurer ou s'il va continuer à s'enquister dans ces potentats locaux.
Mais déjà, sur le Parti Socialiste, un premier élément qui va être extrêmement important, c'est de savoir ce que les 30 députés qui sont élus vont faire. Vont-ils voter la confiance au gouvernement? Vont-ils voter avec Macron? Ou vont-ils... être dans l'opposition. Mmh. Et c'est clair, enfin, il est clair que c'est pas clair chez eux, quoi.
Non, oui. non, exact.
Chez les Républicains non plus, quoi. Non. Et donc ça va être un des premiers éléments, quoi. Il va peut-être y avoir une espèce de, ça va se décanter un peu au Parti Socialiste à ce niveau-là, et on va peut-être y voir un peu plus clair, et ce qui peut que être sain, parce qu'il y a un flou qui est entretenu depuis très longtemps, quand on voit que on a du Hamon et du Valls qui se sont affrontés à la primaire, et que derrière, ça a donné à peu près n'importe quoi. Je pense que ça peut que être sain qui passe, même s'il doit en mourir ou pas en mourir, c'est sain qui passe par cette phase de clarification, aussi douloureuse soit-elle.
D'où l'expression Macron compatible.